Cours de physique MP3 proposé par physagrec.fr. Chapitre 4, partie 2, décroissance radioactive. Lorsqu'on étudie la décroissance d'un ensemble de noyaux radioactifs, on obtient une courbe décroissante en exponentielle. Nous allons voir l'expression mathématique de cette courbe ainsi que ses caractéristiques. On peut d'abord définir un temps caractéristique. Le temps caractéristique d'une décroissance radioactive est le temps nécessaire pour que la population de noyaux passe de grand N à grand N sur 2. Deux hypothèses essentielles quant à la désintégration d'un noyau individuel. Premièrement, la désintégration d'un noyau n'affecte pas celle de son voisin. Deuxièmement, un noyau meurt sans vieillir. En fait, il ne vieillit pas car il a toujours la même probabilité de mourir, quel que soit son âge. Étudions le nombre de désintégrations pendant une durée delta t. Alors, on va noter N0, le nombre de noyaux radioactifs à l'instant t égale 0. N2t, le nombre de noyaux radioactifs restant à l'instant t. Et n plus delta n, le nombre de noyaux restants à la date t plus delta t, avec delta n négatif puisque n diminue. Calculons alors le nombre de noyaux qui s'est désintégré entre t et t plus delta t. Ni moins nf va être égal à donc n moins, entre parenthèses, n plus delta n, donc égal à moins delta n, un nombre positif puisque delta n est négatif. Ce nombre est proportionnel au nombre n de noyaux présents, car pendant une même durée, le nombre de désintégrations est deux fois plus important si l'échantillon comporte deux fois plus de noyaux. Et aussi à la durée delta t, car pour un même échantillon, le nombre de désintégrations est deux fois plus important pendant une durée deux fois plus grande. Il faut que delta t soit petit par rapport à t. Ainsi, selon ces deux proportionnalités, on peut écrire que moins delta n est égal à lambda fois n fois delta t, lambda étant la constante de proportionnalité. Cette constante est appelée constante radioactive et elle dépend de la nature du noyau radioactif, qui est en fait l'inverse de la constante radioactive définie précédemment. On notera donc tau égale 1 sur lambda et tau sera alors homogène à un temps, donc s'exprimera en secondes, minutes ou heures. Loi de décroissance exponentielle. On rappelle que la désintégration des noyaux radioactifs au niveau microscopique est aléatoire. Mais au niveau macroscopique, le nombre moyen n de noyaux restants dans l'échantillon suit une loi déterminée. Ainsi, en utilisant l'expression de tout à l'heure, moins delta n égale lambda fois n fois delta t, si on fait tendre l'intervalle de temps delta t vers 0, on va obtenir la loi de décroissance. Dn sur dt égale moins lambda fois n. Par des outils mathématiques, on peut avoir la loi en exponentielle qui s'écrit n de t égale n0 fois exponentielle moins lambda t. Demi-vie radioactive. La demi-vie T1/2 d'un échantillon radioactif est égale à la durée nécessaire pour que la moitié des noyaux de l'échantillon se soit désintégré. Ceci s'écrit mathématiquement n de t plus T1/2 est égal à n de t sur 2. Cette demi-vie est homogène à un temps, elle s'exprimera donc en secondes ou plus souvent dans une unité plus adaptée. Voyons des exemples. Par exemple, l'uranium-238 a une demi-vie de 4,46 x 10 puissance 9 ans. Le césium-137, lui, a une demi-vie de 30,2 ans. Toutes les constantes de temps décrites dans ce chapitre ne sont pas indépendantes. En effet, on peut exprimer la demi-vie T1/2 en fonction de la constante radioactive. Donc on part de n de t plus T1/2 égale n de t sur 2, et on obtient T1/2 égale ln de 2 sur lambda, ou égale à tau fois ln de 2. La demi-vie ne dépend donc que de la constante radioactive lambda, et pas de n0, le nombre de noyaux initial. A partir de la loi de décroissance radioactive, on peut déterminer graphiquement deux de cette constante de temps. Alors la demi-vie s'obtient en regardant l'ordonnée à n0 sur 2. On rencontre la courbe avec une droite horizontale, on redescend avec une droite verticale coupant l'axe des abscisses et cette intersection avec l'axe des abscisses nous donne T1/2. On peut aussi, grâce à la tangente à l'origine, qui va couper également l'axe des abscisses, trouver la constante de temps tau. Activité d'un noyau radioactif. Définition, l'activité A d'une source radioactive est égale au nombre moyen de désintégration par seconde dans l'échantillon. Mathématiquement, donc on écrit A égale moins delta n sur delta t, et qui est égal à valeur absolue de delta n sur delta t, est égal à lambda fois n, cette activité est positive. Elle s'exprime en becquerel, de symbole grand B Q, en hommage au physicien du même nom. Un becquerel correspond donc à une désintégration par seconde. Dangerosité d'une source. Alors cette dangerosité est liée à l'activité de la source. Plus l'activité d'une source est importante, plus elle est potentiellement dangereuse. On peut exprimer cette activité en fonction de la demi-vie et du nombre de noyaux. En effet, on obtient A égale ln de 2 sur T1 demi fois grand N. Ainsi, l'activité d'une source dépend de la demi-vie, mais aussi du nombre de noyaux radioactifs présents. Une source de courte demi-vie est potentiellement dangereuse si elle est abondante. Une source de longue demi-vie n'est pas très dangereuse, à condition qu'elle ne soit pas trop abondante. Effet biologique de la radioactivité. L'action sur les tissus vivants dépend de plusieurs paramètres. Alors, premier paramètre, le nombre de particules reçues par seconde. Ce nombre dépend de l'activité de la source et de son éloignement. Deuxièmement, de l'énergie et de la nature des particules émises et donc reçues, selon le type de radioactivité. Troisièmement, du fractionnement de la dose reçue. Quatrièmement, de la nature des tissus touchés. Les particules ionisantes et le rayonnement gamma sont capables de provoquer des réactions chimiques et des modifications dans la structure des molécules constituant la matière vivante. En particulier, ils peuvent induire des mutations génétiques lorsque l'ADN se trouve modifié. Mais il ne faut pas oublier que la radioactivité a également de nombreuses applications en médecine, radiothérapie, scintigraphie, etc. Donc, il n'y a pas que des effets néfastes sur la santé. Dernier paragraphe, voyons l'application de la radioactivité à la datation. Principe, on connaît le comportement d'un échantillon de matière radioactive, donc la loi de l'universel s'écrit n de t égale n0 exponentielle de moins lambda t. Si on veut se servir donc de cet échantillon de matière radioactive comme horloge, il faut que l'on évalue le temps, donc le temps que l'on déduit de l'expression précédente, t égale moins 1 sur lambda ln de n sur n0. Il faut donc utiliser un échantillon radioactif dont lambda est connu. Il faut que l'on connaisse N0 et avoir un moyen de déterminer le grand N. Comment choisir le radioélément à utiliser? Il faut tout d'abord estimer l'âge de l'échantillon à dater, et ensuite choisir un radioélément dont la demi-vie est en rapport avec cet âge. Car on sait qu'au bout de 10 fois T1 demi, on considère que tous les noyaux radioactifs se sont désintégrés. Un cas particulier de la datation, donc la datation au carbone 14. Celle-ci est utilisée pour les matériaux qui ont jusqu'à 50 000 ans d'âge. En effet, on utilise le carbone 14 qui a une demi-vie de 5600 ans. On part alors de deux hypothèses de base. La répartition du carbone 14 dans l'atmosphère est homogène. Et la proportion de carbone 14 par rapport au carbone 12 est identique dans les tissus vivants et dans l'atmosphère. Et ceci sur quelques dizaines de milliers d'années. Ainsi, la composition de base est connue. À la mort de l'échantillon, il n'y a plus d'échange entre celui-ci et l'atmosphère. Et la proportion de carbone 14 dans les tissus morts décroît de manière exponentielle. Elle diminue par 2 tous les 5600 ans. On mesure alors l'activité du carbone 14 dans l'échantillon et on va remonter à son âge.